Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Je suis Anne-Charlotte Monneret, DG du réseau EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast EdTech France. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anaïs Préto, qui a cofondé avec son associé Alexandre Dana la société Live Mentor en 2017 pour aider tous les entrepreneurs à se former et à réussir leurs projets. Un modèle en ligne novateur qu'il a fallu réussir à imposer. Avec la loi sur la formation professionnelle, la crise sanitaire, tout ça a participé à installer leur plateforme dans l'univers de la formation auprès des apprenants, mais pas forcément vivant dans une grande ville, des apprenants de toute la France. Alors Anaïs, bonjour, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui.
Bonjour Anne-Charlotte, enchantée et ravie effectivement de pouvoir échanger un petit peu avec toi depuis Marseille.
Ah, depuis Marseille, parfait. Quelle chance. Du coup, on revient sur d'abord sur ton parcours avec Alexandre Dana, donc ton associé. Vous êtes tous les deux diplômés de l'ESCP, donc d'une grande école. Et justement, vous vous êtes lancés dans un secteur qui est celui de la formation en ligne. Qu'est-ce que ces études de commerce et d'ailleurs tes premières expériences pro et les siennes vous ont apporté avant de créer Live Mentor, parce que c'est pas forcément le secteur dans lequel on imagine se lancer, la formation en ligne. Donc, d'où ça vient et peut-être d'où vous venez tous les deux aussi en termes de parcours.
Oui, surtout à l'époque, aujourd'hui, ça semble un petit peu une commodité de faire de la formation en ligne. À l'époque, c'était quelque chose d'assez curieux. Comme quoi, on a beaucoup évolué depuis 2017, ce qui est assez rassurant. Et notamment depuis le Covid, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, Alexandre et moi, on a des backgrounds paradoxalement assez similaires, alors que moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt rural et lui, dans un milieu plutôt urbain. Mais on a en commun le fait d'avoir des familles qui étaient assez éloignées de l'entreprise. On n'a pas du tout dans notre famille de personnes qui ont pu monter des structures, ça c'est certain, mais on avait même en fait peu de personnes en fait qui travaillaient tout court dans des entreprises telles qu'on les conçoit de façon assez classique, des entreprises privées. Moi, ma mère travaille dans la santé, mon père est plutôt dans l'artisanat horloger, donc rien à voir. Et Alex, c'est encore plus exotique, si on peut dire. Son père est psychiatre et sa mère était trapéziste dans un cirque, donc rien à voir. Et donc, ce qui fait que on s'est retrouvé en fait un petit peu au gré des pérégrinations dans notre parcours scolaire en école de commerce, mais pas tant parce que on avait entendu parler de l'entreprise et c'était quelque chose auquel on se destinait. D'ailleurs, je me rappelle vraiment très bien lorsque je réfléchissais à mon orientation, les carrières commerciales, c'était quelque chose qui était absolument pas dans les cartes que j'avais présélectionnées, parce que tout simplement, je pense que je n'étais pas vraiment au courant qu'il y avait des opportunités là-dedans. C'était quelque chose qui n'était pas visible dans mon quotidien. Donc, dans ce que je regardais, il y avait plutôt prof de lettres, vétérinaire, parce que c'était vraiment mon environnement immédiat, si on pouvait dire ça comme ça. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu, par hasard ou par chance, à être orientée vers ces carrières-là grâce au système d'orientation de l'éducation nationale qui fonctionne plutôt bien. Mais disons que j'avais pas vraiment de prédestination vers ces carrières-là, et pas surtout le réseau qui m'incitait à faire ça. Et en fait, paradoxalement, lorsqu'on s'est retrouvé en dernière année ou au moment où on a voulu commencer à entreprendre, pour Alexandre comme pour moi, même si on venait pas de background particulièrement tourné vers ça, en fait, on s'est rendu compte que ça avait quand même été plutôt facile rétrospectivement de monter une structure, puisque on a eu la chance non pas tant d'acquérir des compétences vraiment concrètes, parce que au contraire, elles nous ont plutôt manqué et on a dû vraiment réapprendre pas mal de choses sur la partie distribution, marketing, opérationnel vraiment, mais au niveau du réseau, notamment au niveau de la capacité à rencontrer des personnes qui l'avaient déjà fait, à la fois pour les conseils, mais aussi pour la dimension d'inspiration, se dire, en fait, finalement, cette personne, elle a quand même l'air d'être relativement proche de moi, donc c'est possible. Ça, le SCP nous a énormément aidé. On a vraiment gagné des années, je pense, grâce à cet annuaire. Et force était de constater, justement, que pour nous, contrairement à ce qu'on peut raconter dans les journaux, que ce soit sur l'accès au financement, sur l'accès au réseau, le fait d'être juste de s'être retrouvé au bon endroit au bon moment, ça nous a vraiment plutôt aidé. Et donc on a pu monter cette structure là. Et le constat qu'on a fait, et c'est de là que vient Live Mentor justement, c'est que quand on regardait autour de nous, nos amis historiques, nos proches historiques, on était quand même plutôt une exception grâce à justement ce système des grandes écoles, qui avait été vertueux sur cette partie-là de notre vie pour nous. Et ce qu'on s'est dit, c'est bon, c'est très intéressant, nous on fait partie de l'exception, mais est-ce qu'on peut pas essayer de recréer plutôt à l'échelle de cet écosystème qui a fonctionné pour nous, de sorte à faire que ce soit plutôt la règle que l'exception, et permettre d'avoir un système qui bénéficie non pas au 1% qu'on représentait, puisque c'est des parcours scolaires qui sont plutôt élitistes, mais rendre ces facilités plutôt accessibles au plus grand nombre, ce qui était le plus intéressant. Donc c'est un petit peu de là que qu'est venu Live Mentor, et donc en fait au final je pense que le SCP a été un point de départ pour beaucoup de choses en fait dans ce projet, à la fois pour faire le constat du fait que il y avait un écosystème qui était privilégié sur l'entrepreneuriat, mais c'était un écosystème qui était vraiment minoritaire, et ça nous a permis de rencontrer aussi avec Alex, je pense qu'on se serait jamais croisé sinon sans cette école là donc mine de rien c'est quand même ça a été un très très bon tremplin. Je sais qu'on a beaucoup tendance à casser du sucre sur les écoles de commerce, c'est un petit peu craché dans la bonne soupe je crois, nous pour des parcours comme nous ça a été un vrai tremplin. Est-ce que les compétences vraiment qu'on a appris toutes en tout cas n'ont pas été mobilisées, mais je pense que c'est pas forcément le plus important. En tout cas ça nous a permis de faire les bonnes rencontres et de faire ce constat qui a donné vie à Live Mentor aujourd'hui en fait finalement.
Et c'est hyper intéressant que tu relies Live Mentor à ce principe d'égalité des chances, tu vois. Enfin, évidemment qu'on comprend ensuite par la suite, mais que l'idée était déjà présente dès le début, c'est hyper intéressant. Et du coup, justement, est-ce que tu peux revenir sur comment c'est sorti de terre, d'où est venue l'idée précisément? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit d'ailleurs c'est ça qu'on va faire? Et comment tu t'es dit je veux le faire avec Alexandre aussi d'ailleurs?
Alors, nous, on n'a pas du tout eu de light bulb moment, de eureka moment, comme on dit en bon français. En fait, c'est un processus vraiment itératif, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre à nos apprenants, justement, dans les formations, parce qu'on a un peu la méthode du skateboard, MVP, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. C'est pas très important le terme, l'important, c'est l'intention. En fait, Live Mentor, c'est vraiment le résultat d'itérations très, très continues, avec beaucoup de résilience, beaucoup d'erreurs, beaucoup de temps à faire passer à faire des choses qui n'ont pas fonctionné. En réalité, Live Mentor a démarré à 100 mois avec une première mouture qui a démarré en 2012 avec Alexandre et deux associés historiques qui sont sortis depuis mais qui ont travaillé avec Alexandre sur le projet jusqu'à 2017. Donc la première itération était sur le domaine du soutien scolaire avec des cours en ligne qui ressemblent aujourd'hui un petit peu au modèle qu'on recommence à voir comme Student, notamment en Allemagne. Donc, Alex a itéré sur ce modèle-là jusqu'en 2016 avec des premières levées de fonds qui ont été faites justement sur ce modèle. Je pense que c'est important d'ailleurs de le noter parce que je suis pas certaine, hein, même si on peut pas réécrire l'histoire, qu'on aurait réussi à lever des fonds en seed sur le modèle initial de Live Mentor tel qu'il est aujourd'hui à l'époque dans le marché. Donc on a utilisé une partie du financement de cette première boîte suite à un pivot pour développer le modèle, donc ça c'est important. Je pense que ça a été vraiment un avantage comparatif, même si c'était pas fait exprès à l'origine. Donc il y a eu vraiment ces itérations sur ce modèle là pendant plusieurs années, avec un succès assez mitigé en termes de chiffre d'affaires. C'était vraiment la galère, parlons français. Et en fait, il y a eu une volonté de pivot entre 2016 et 2017 parce qu'en fait, on commençait à voir à travers les profs qui enseignaient sur cette plateforme toute une nouvelle génération en fait d'indépendants qui commençait à émerger, des personnes qui se disaient mais en fait finalement je sais pas vraiment si j'ai envie de garder mon emploi salarié, est-ce que finalement je voudrais pas en parallèle de voyage enseigner les maths ou le français pour me faire un revenu complémentaire, des personnes qui vraiment en fait commençaient à utiliser le tutorat en fait vraiment comme un vrai job, et même des personnes qui avaient des carrières académiques qui normalement les destinaient à avoir plutôt des jobs qu'on considère prestigieux, même si j'aime pas trop ce genre de phrase, qui disaient en fait moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être plutôt libre, d'être mon propre patron, et en fait finalement peu importe si je gagne un petit peu moins que ce que j'aurais pu gagner ailleurs. Et donc en fait de fil en aiguille on se retrouvait un petit peu à accompagner ces néo-entrepreneurs sur la verticale de l'éducation, et du coup à devoir développer tout un tas de services pour les aider à trouver eux-mêmes leurs élèves, à les fidéliser, à concevoir leur prix, à se vendre, à faire des flyers pour aller démarcher les lycées, etc. Donc en fait, on a créé un petit peu sans faire exprès la première itération de notre formation marketing digital, qui est aujourd'hui un de nos best-sellers. Et en fait, un jour, on s'est dit, mais en fait, finalement, aujourd'hui, on aide ces professeurs particuliers à se faire connaître. Est-ce que finalement, on pourrait pas aider en fait d'autres entrepreneurs à se faire connaître, et on a ouvert la première cohorte d'entrepreneurs. Donc à l'époque on a eu des freelances qui se lançaient en copywriting, on avait des e-commerçants, enfin on avait vraiment tout en fait, un petit peu les 99% de l'entrepreneuriat, souvent unipersonnel, souvent des personnes qui se lancent toutes seules quoi, qui sont venues. Je crois qu'on a eu plus de 3000 inscrits à la première session. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qui étaient en gratuite, c'était un modèle freemium, et on s'est dit bon, je crois qu'on a fait plus de chiffre d'affaires sur la première cohorte que sur l'année d'avant sur le modèle précédent. On s'est dit bon, feu, il y a quelque chose, et on a pivoté à ce moment-là. Donc ça a été d'ailleurs une période assez folklorique, puisque une levée de fonds avait été bouclée en août. En juin, je crois. Donc ensuite, les vacances se sont passées, et en septembre, on a annoncé aux investisseurs qu'en fait, on n'allait pas faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On allait faire quelque chose d'un petit peu différent, une école pour entrepreneurs et non plus une plateforme de soutien scolaire. Donc ça a été un peu sportif, mais on a eu la chance justement d'avoir pu faire ce test très très rapidement, d'avoir déjà des métriques qui étaient bonnes, et aussi surtout la confiance de Christophe Reynaud chez Isaïe qui a été franchement incroyable, et je pense un peu fou aussi à l'époque, parce que il fallait y croire qu'il nous a suivi, parce que je pense que voilà, tout le monde n'aurait pas accepté un pivot aussi rapide. En tout cas, c'est vraiment ça, ce pivot là qui a marqué vraiment l'entrée dans le nouveau modèle, et qui nous a permis en fait de mettre la première pierre sur ce chemin qui a été assez long depuis. Et donc moi je me suis associée avec Alexandre sur la deuxième mouture justement de Live Mentor, donc en 2017. Donc c'est important, je pense, d'insister, parce que ça montre aussi que la route entrepreneuriale, elle est longue, ça tout le monde le raconte à longueur de journée dans les podcasts, mais elle est surtout en fait beaucoup plus plurielle que ce qu'on peut penser. Moi j'ai beaucoup de personnes qui définissent l'entrepreneur comme quelqu'un qui nécessairement est quelqu'un qui va avoir une idée incroyable à un moment donné et le développer jusqu'au bout. En fait, il n'y a pas que ça, il y a différentes formes d'entrepreneurs, il y a des créateurs, il y a des développeurs. Moi je suis plus une développeuse, je pense, au sens où je suis venue avec Alexandre au moment où il y avait déjà le 1 qui était fait. Donc le 0-1 avait été fait par Alexandre et ses associés, je les en remercie vraiment. Et on a développé ensuite avec Alexandre et l'équipe le passage de 1 à 10. Et maintenant, on s'intéresse aux 10 à 20 millions de chiffre d'affaires, justement.
Et en termes de calendrier, toi, tu sortais d'une expérience pro, ou comment ça s'est passé le moment où tu t'es vraiment raccordé au projet en disant « Ok, je pars, je viens, c'est pour moi ».
Alors, moi, je connaissais déjà très bien Alexandre et ses associés de l'ESCP. Je pense que je fais partie des rares personnes avec qui Alexandre parlait à l'ESCP, parce qu'il n'était pas, il était pas beaucoup là. Donc, j'ai eu plutôt de la chance de me retrouver dans sa classe de compta en première année. Sinon, je sais pas si on se serait associés, pour la petite histoire. Mais plus sérieusement, moi, j'avais commencé ma carrière chez One Fine Steak, qui était une start-up dans l'hospitalité, qui a été rachetée par Accor Hotel en 2016, justement. Pour une très très belle sortie. Et donc j'ai fait mes 4 premières années d'expérience professionnelle là-bas, avec des rôles qu'ont évolué au cours du temps, mais au départ sur des fonctions plutôt de growth, et pour ensuite évoluer vers des fonctions d'expansion internationale, avec des responsabilités sur les PNL des nouveaux marchés notamment. Donc assez généraliste, et je pense une bonne préparation au PNL management, à vraiment la ce qui allait être en fait demandé chez Live Mentor ensuite sur un rôle de dirigeant, en fait, même si évidemment l'échelle n'était pas la même, parce que One Fine Steak avait levé 80 millions, donc c'était un terrain de jeu un peu plus large en termes de moyens que Live Mentor, mais ça m'a donné vraiment très très bonne base, je pense, en termes de compétences généralistes sur la partie business qui était vraiment nécessaire, sur la partie financière aussi. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Top expérience, terrain de jeu géant, incroyable en termes d'apprentissage. Enfin, j'ai vraiment pu avoir des compétences et des responsabilités, surtout très très tôt, ce qui était top. Ensuite, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de vraiment faire quelque chose qui puisse rendre un petit peu ce que la France m'avait donné, rendre à la France qu'elle m'avait donné sur la partie vraiment éducation nationale. Je suis vraiment consciente d'avoir eu de la chance. Je fais partie des personnes qui pour qui le système français a bien fonctionné d'un point de vue école. Je viens pas du tout d'un background particulièrement favorisé ni défavorisé. Je suis vraiment une enfant des classes moyennes au sens noble du terme, même si on n'utilise plus du tout ce terme de façon noble, mais c'est quand même normalement 80% de la France, donc ce serait bien de redonner un peu ces lettres de noblesse à cette catégorie. Et j'ai vraiment fait le constat d'une France qui devenait de plus en plus à deux vitesses, avec d'un côté une terre d'opportunités extraordinaires dans laquelle moi je m'étais retrouvée par hasard, par chance ou par travail, peu importe, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Et de l'autre côté, une France dans laquelle on avait de plus en plus de mal à trouver du boulot, dans lequel il y avait des problématiques géographiques qui n'étaient pas celles du territoire dans lequel j'étais, des problèmes de job qui devenaient trop loin, d'entreprises qui n'étaient plus dispo, de dynamisme technologique qui arrivait pas dans certains territoires. Et je voyais d'un côté, au repas de Noël ou lorsque je rentrais chez moi, je voyais des personnes qui pouvaient trouver un job en claquant des doigts, et de l'autre côté, des personnes qui avaient un peu moins de choix, moins de métiers, et qui passaient à côté d'une certaine révolution numérique dont tout le monde parlait à Paris et que moi je voyais pas forcément énormément partout. Et donc j'avais envie de faire quelque chose pour rendre ça, et qui sorte surtout de ce microcosme parisien qui moi m'a beaucoup bénéficié, mais qui pour moi restait quand même très géolocalisé à la région parisienne ou aux grandes métropoles. Et j'ai envie de faire quelque chose qui a un peu plus d'impact. Je voyais beaucoup de modèles tech qui finalement ne créaient des emplois que dans des grandes métropoles, qui ne créaient des emplois. Oui, c'est très bien d'embaucher des HEC et des gens comme moi, mais je pense que on aurait trouvé du job quoi qu'il arrive, en caricaturant un petit peu. Donc c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Et Alex, avec qui j'étais restée en contact depuis longtemps, à tel point que pendant un moment, ils étaient d'ailleurs, Live Mentor était d'ailleurs hébergé dans le placard de One Fine Stay, parce qu'ils avaient plus de bureau, donc géographiquement, je les voyais bien. Ça faisait un moment qu'on discutait, je leur filais déjà des petits coups de main, et le moment était justement arrivé pour les rejoindre. Donc à la base, je les ai rejoints comme salariés en tant que VP Expansion, parce qu'à l'époque, on avait très envie d'aller à l'international, mais on n'y est jamais allé. Et de fil en aiguille, les événements ont fait que j'ai pu m'associer avec Alex et le rejoindre en tant que cofondatrice sur cette structure.
Génial. Mais je comprends parfaitement ton idée de dire j'ai envie de rendre ce que j'ai reçu. Pareil, je suis typiquement une enfant des classes moyennes comme toi, et j'avais commencé à travailler dans le monde de la tech, et du coup, basée sur ce même constat, je suis devenue enseignante parce que je m'étais dit, mais c'est pas possible, il y a tellement de gamins qui comprennent rien au monde de l'entreprise, qui comprennent rien à la révolution numérique, et il faut rapprocher l'école de l'entreprise. Et d'une manière un peu différente, Live Mentor pour moi réussit aussi à faire ça, et c'est ça la beauté du numérique, c'est que mine de rien, t'es quand même tellement plus systémique que l'éducation nationale. Je dis pas que l'éducation nationale n'a pas son rôle à jouer là-dessus, mais c'est vrai que des entreprises comme ça, c'est tellement précieux. Et je rejoins ce que tu dis aussi sur le fait que je suis pas certaine que tu aurais réussi à lever sur la base de ce modèle EdTech à l'époque, avant la crise sanitaire, je veux dire. Mais du coup, c'est hyper intéressant le pivot que vous avez pris. Et justement,
alors nous, on a réussi à lever avant la crise sanitaire sur ce modèle-là spécifiquement, mais dans des conditions qui étaient compliquées. Et c'est pour ça que je dis vraiment en seed, sur la première mouture, si on était arrivé sans chiffres ou quasi sans, avec juste cette grande idée, je suis pas certaine qu'on aurait pu lever 1 million en seed, qui est finalement le montant qu'on a utilisé, qui restait de la levée de fonds d'avant pour vraiment arriver au modèle tel qu'on l'a présenté en 2019. Je suis pas certaine qu'on aurait levé à ce moment-là.
Parce que du coup, après, c'est cette même levée avec du capital ou c'est une autre levée, parce que c'est...
Non, alors si on refait un peu l'historique, on a dû lever 2 millions entre avant le pivot. Une grosse partie de cette levée avait été consommée pour développer le premier modèle avant 2016. Ouais, et en gros, suite au pivot, il restait à peu près 1 million en banque. On avait la chance à l'époque d'être rentable, donc ce qui nous a, ou d'avoir généré un petit peu de rentabilité sur certaines cohortes, donc ce qui nous a permis de nous maintenir à flot pendant 3 ans, entre 2016 et 2019. Donc on a consommé plus ou moins 1 million d'euros pour développer le business et pour l'amener jusqu'à 2019 pour en gros tripler le chiffre d'affaires et avoir une première vraie itération sur la plateforme de mentorat, sur la plateforme de visionnage de cours, sur la plateforme communautaire. Et en 2019, on s'est représenté sur le marché, cette fois avec le vrai modèle. On a relevé donc 2 millions d'euros à ce moment-là, avec du capital et Impact et Isaïe qui nous ont suivis. La première levée ayant été faite avec Isaïe. Donc Isaïe nous a vraiment suivis depuis le début. Et ça, c'est assez admirable de leur part parce que franchement, parfois, il fallait vraiment y croire. Donc je tiens quand même vraiment à souligner leur soutien là-dessus. Et là, on a réalisé une nouvelle levée de 11 millions d'euros en 2021, en juillet, avec les trois donc fonds qui ont suivi et Ring Capital qui est entré. Et on est vraiment très très contents. Donc il y a eu vraiment plusieurs moments. Il y a eu vraiment cette première phase où on a travaillé avec le fond de caisse qui était significatif, hein, mais le fond de caisse du pivot. Donc ça a été vraiment une vraie chance de pouvoir compter sur ces moyens de financement pour développer le MVP. Ensuite un premier round de 2 millions pour recapitaliser et ensuite cette belle levée de 11 millions pour vraiment accélérer et pouvoir passer à l'échelle. Donc ça s'est fait vraiment graduellement, mais les conditions effectivement de levée entre 2019 et 2021 n'étaient pas exactement les mêmes, soyons clairs.
Mais bien sûr, et surtout le boom du marché de manière générale. Évidemment que Live Mentor a aussi gagné en puissance de son côté et que la boîte n'est pas la même entre 2019 et 2021. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence énorme en termes d'accès au financement sur la formation professionnelle post-crise sanitaire. Mais après, on en reparlera peut-être par la suite, mais ça se sent et c'est génial, hein, c'est à observer. Et justement, niveau régulation, parce que donc il y a aussi le contexte juridique qui joue, il y a la loi sur la formation professionnelle qui j'imagine vous a été précieuse sur l'expansion du business. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'impact que ça a eu?
Alors il n'y a pas que ça, au sens où je dirais pas que Live Mentor a été que propulsé par la loi sur la formation professionnelle, parce que la loi Avenir de 2018 pour synthétiser pour le grand public a pour principal conséquence pour les organismes de formation de la traduction du CPF qui est vertueux à plein de niveaux que je vais détailler. Il y a pas que ça, il y a aussi chez nous une vraie normalisation des usages vers la formation en ligne. Nous on a quand même ça nous semble curieux aujourd'hui, mais on a quand même nous entre 2016 et 2020 une des objections qu'on devait traiter au téléphone avec les apprenants potentiels, c'était j'hésite entre une formation en ligne et une formation en présentiel à la CCI ou ailleurs, parce que je fais pas confiance à la formation en ligne, j'ai peur de me retrouver dans des formats complètement statiques face à des tutos, etc. Donc il y avait quand même cet élément là et alors là, pour le coup, le Covid a été incroyable là-dessus, parce que alors maintenant, plus personne ne nous demande si une formation en ligne, c'est on a vraiment compris que c'était un format pédagogique à part entière et que c'était lorsque c'était bien fait, ça fonctionnait bien. Mais il est clair que la loi Avenir professionnelle la loi Avenir, je sais pas, je sais jamais comment elle s'appelle entièrement cette loi, mais la loi Avenir telle qu'on va l'appeler de 2018 nous a aidé pour deux raisons. La première, c'est que donc ça a permis à l'individu d'être complètement responsable de son parcours professionnel et d'avoir vraiment une liberté complète, quasi complète, dans le choix de ses formations. Donc, c'est-à-dire que on est passé d'un monde où la personne devait très souvent solliciter son DRH, solliciter Pôle emploi, solliciter un intermédiaire pour avoir le droit de se former dans quelque chose à un monde où la personne peut aller sur une plateforme, taper le domaine qui l'intéresse ou rechercher un organisme de formation qu'elle a repéré sur quelconque moyen de communication que ce soit et s'inscrire sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit en formation. Donc ça, ça a été une libération incroyable pour les modèles comme nous, qui sont des modèles qui partent beaucoup de d'un désir très très individuel de formation. Évidemment, se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui est très personnel, très individualisé. Et en général, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez très très envie de parler à votre DRH, parce que lui aimerait plutôt que vous restiez en général dans sa boîte. Donc, pour des domaines comme nous, ça a énormément, énormément aidé pour donner, en fait, tout simplement un accès à du financement qui avant était quasi inaccessible ou très très difficile à mobiliser. Il y avait des choses qui étaient possibles avec notamment les tout ce qui était lié à la reconversion, mais c'était des dossiers énormes à faire et c'était franchement assez lourd administrativement parlant. Et le deuxième élément sur lequel ça a beaucoup changé, c'est que la plateforme a énormément aidé sur tout ce qui est vraiment gestion, logistique, traitement des commandes. Avant, il y avait pas de comptoir unique, il fallait jongler entre des dizaines d'opérateurs de compétences, jongler entre des dizaines il fallait trouver le bon interlocuteur pour faire financer sa formation, donc c'était assez complexe. Il fallait ensuite, en général, traiter des dossiers en papier. Vous aviez des réponses plusieurs mois plus tard, donc ça créait des enjeux en termes de lenteur. De conversion, ça a démotivé aussi complètement les apprenants, parce que on avait des réponses parfois plusieurs mois après, c'était déjà formé par un autre moyen, et ça posait aussi des enjeux de BFR parce que évidemment on avait des commandes qui mettaient du temps à être traitées en termes d'acceptation et qui mettaient du temps à être traitées en termes de paiement également. Donc c'était difficile pour les organismes de formation d'atteindre des tailles critiques à cause du BFR, parce que tout simplement on était payé parfois, je crois qu'on avait des créances qui étaient payées à 9 mois, c'était horrible. Donc ça a beaucoup aidé. C'est un peu moins grand public, mais c'est quand même important, parce que ça explique pourquoi en France, je pense, beaucoup d'OF étaient très petits, tout simplement parce que je pense que c'était compliqué de financer en fait ce BFR. C'était, l'État est un très bon payeur, mais à l'époque, il fallait être très patient, et tout le monde n'est pas capable d'absorber des niveaux de BFR aussi importants, tout simplement.
Et je te rejoins tout à fait. En France, c'est vrai qu'il y a des dizaines de milieux d'organismes de formation qui sont, pour la très grande majorité d'entre eux, des TPE, en fait. Donc, sur cet aspect-là, par d'autres facteurs également. Mais c'est vrai que cette loi sur cet aspect est extrêmement bénéfique. Et tu parlais du CPF. Et c'est vrai que le CPF, c'est un outil extrêmement précieux à protéger. Mmh. Même si, évidemment, il y a des abus et des démarches qui sont mises en place pour lutter contre ces abus. C'est vrai qu'on ne le répétera pas assez, mais c'est quand même une liberté incroyable pour tout citoyen de pouvoir.
Incroyable.
C'est incroyable.
Et d'ailleurs, il y a des alors en fait, le CPF agace ceux qui ont perdu des choses suite à cette réforme, c'est normal, et limite ils sont dans leur droit. Mais il faut quand même voir que sur les résultats en termes d'accès à la formation de public qui autrefois était défavorisé, on a des résultats qui sont incroyables. Quand je dis autrefois, ça semble bien longtemps, mais avant cette loi, disons 2019, fin 2019, vous aviez beaucoup plus de chances, enfin quasi aucune chance en fait, d'être formé si vous étiez ouvrier. L'accès à la formation était centralisé sur des cadres dans des grandes entreprises où il y avait un service RH qui était suffisamment organisé pour pouvoir gérer la complexité de l'accès à la formation, parce que c'était quand même beaucoup ça. Il y avait quand même des entreprises qui étaient spécialisées dans la gestion de la formation externalisée, tellement c'était compliqué. Ça existe encore un petit peu, mais ça montre quand même la complexité du système. Là, aujourd'hui, on a des personnes qui sont moins diplômées, qui ont enfin accès à la formation, et je dirais que c'est un système qui commence enfin à faire en sorte que les personnes qui vraiment ont besoin de formation y accèdent. Et ça, c'est assez incroyable. Alors après, oui, on peut passer des heures à parler de sujets qui, à mon sens, ne sont pas très importants, de est-ce que les formations en œnologie doivent être remboursées ou pas, parce que les gens ont très peur que le CPF soit utilisé à des mauvaises fins, mais je pense que c'est un petit peu se tromper de combat. C'est avoir une vision complètement erronée de la France que penser que la majorité des Français n'ont que ça à faire que de gaspiller de l'argent ou des droits droit pour faire des formations qui vont rien leur rapporter. La majorité des Français, c'est pas du tout ça leur problématique. Alors que quelques personnes de milieux favorisés se fassent kiffer, parce que c'est ça le terme, à faire des formations un petit peu sympathiques pour apprendre à brasser leur bière, très bien. Mais malheureusement, ces personnes-là ne sont pas encore 50% de la population française. Et j'ai envie de dire, le jour où on aura ce problème-là, c'est qu'on aura résolu un gros problème d'inégalité en France et que franchement, ce sera bien le cadet de nos soucis. Donc, il y a un peu... Il faut faire attention, je trouve, à certaines discussions de comptoir ou de salon sur le CPF, parce que quand on regarde les chiffres, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le mec de Paris Intramuros qui va aller faire une formation pour créer son savon. Malheureusement, la majorité des Français n'ont pas ces préoccupations.
Complètement. Et en termes d'accès aussi, selon les territoires, il y a un impact énorme pour les personnes issues de territoires dits ruraux, donc juste pas dans les grandes métropoles. Donc,
complètement.
C'est assez fou. Et sur la crise sanitaire, est-ce que tu peux nous revenir un peu dessus sur savoir si oui ou non ça a été une opportunité entre guillemets pour Live Mentor et surtout sur l'impact sur ta clientèle. Est-ce que elle a changé en termes de typologie entre la période pré-Covid et aujourd'hui?
Alors, il y a eu trois impacts sur la crise sanitaire, je dirais. Bon, deux principaux, disons. Le premier, c'est effectivement donc ce que je disais juste avant, la démocratisation vraiment de la formation en ligne, à la fois d'ailleurs du côté des particuliers, mais aussi des financeurs. Je pense que il y avait quand même encore beaucoup d'étapes ou de moments clés dans la vie d'un organisme de formation dans lesquels on se sentait un petit peu comme des carrés dans des ronds lorsqu'on était un organisme de formation en ligne, où parfois on se retrouvait lors d'audit à ce qu'on nous demande le nombre d'extincteurs qu'on avait dans les salles de cours ou des choses comme ça. Et malheureusement, nous n'avons pas d'extincteurs digitaux dans les salles de cours. Donc il y avait encore un peu ce sentiment quand on faisait de la formation en ligne avant le Covid d'être un peu des choses étranges dans cet univers. Et ça, c'est quand même, il y a eu une vraie normalisation et c'est très très bénéfique à la fois donc au niveau de l'écosystème, au niveau des apprenants. Et le deuxième élément, c'est, il y en a quand même trois. Le deuxième élément, c'est, bon, il y a eu cette grande crise de sens dont tout le monde parle, que nous on a vu, beaucoup de personnes qui même si je pense que en fait c'est juste une accélération de tendance, parce qu'on voyait déjà ce phénomène avant, parce qu'on a eu des taux de croissance qui étaient assez importants. Déjà, on a fait quasi fois deux tous les ans bien avant le Covid. Donc, il y avait déjà quand même cette accélération, cette volonté d'aller de plus en plus vers l'entrepreneuriat dont on parle pas mal. Mais disons que ça a vraiment confirmé cette tendance. Il y avait autrefois plutôt autour de 800 000 créations d'entreprises par an. Aujourd'hui, c'est plutôt 950 000. Donc, le Covid a vraiment accéléré ça. On parle de ce mouvement de la grande démission. Nous, c'est quelque chose qu'on constate. Et après, le troisième élément, c'est l'émergence ou le renforcement de certains secteurs parmi les disciplines ou les thèmes que choisissent nos apprenants pour entreprendre. Historiquement, on avait beaucoup, beaucoup de e-commerce, beaucoup de freelancing. C'est quelque chose qu'on voit encore, mais on voit émerger de plus en plus tout ce qui va être thérapie. Donc, il y a aussi, je pense, eu pas mal de questionnements sur la santé, la façon dont on a géré alors à la fois la santé, donc la recherche d'alternatives à la médecine traditionnelle, parce que bah, ça a été quand même un moment où on s'est tous un peu posé des questions sur le vaccin, pas le vaccin, où on s'est dit bon, notre santé c'est quand même quelque chose d'assez précieux, comment est-ce qu'on peut se protéger de différentes façons. Donc on voit vraiment plein de thérapies qui commencent à émerger, qui est une tendance qui se consolide, c'est quelque chose qu'on voyait déjà, mais qui vraiment se renforce. Et après, il y a la vague du bien-être aussi, évidemment. Le bien-être, c'est quelque chose qui a été mis à rude épreuve pendant le Covid. Je pense qu'on a tous eu besoin de trouver des façons de se sentir mieux dans un monde qui nous donnait pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Et c'est surtout une thématique, en fait, qui a toujours été très forte aussi chez les entrepreneurs, à tel point qu'on a d'ailleurs publié un livre là cette année. Alex vient de publier un livre sur justement cette thématique de la santé mentale et du bien-être des entrepreneurs. Mais effectivement, donc on voit les élèves qu'on accompagne s'inscrivent dans cette tendance-là. Donc les thérapeutes aujourd'hui, tout ce qui est vraiment thérapie, bien-être, c'est la quatrième typologie d'apprenants qu'on accompagne. Donc une vraie accélération depuis.
Ouais, et sur tout ce qui va être environnement, impact écologique, etc., tu sens aussi un changement ou pas? Parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui parlent beaucoup plus. Alors, à tout le monde depuis.
Nous, c'est, je dirais que c'est quelque chose qu'on a toujours observé. Donc, et c'est pas, on le traite pas comme, on traite pas les projets à impact comme une catégorie à part entière. On a fait le choix de plutôt avoir, enfin, se dire que tout business doit essayer d'avoir plutôt un impact. Donc, typiquement, dans notre formation marketing digital, on a rajouté des modules récemment pour sensibiliser à l'impact justement du marketing digital. Est-ce que vraiment on a besoin d'envoyer autant de mails que ça? Est-ce qu'on se pose la question lorsqu'on lance une séquence de mails automatisée à l'impact écologique que ça peut avoir, etc. Donc, c'est clair que c'est une tendance très forte. Il nous est arrivé d'ailleurs bien avant le Covid de demander justement à nos équipes commerciales de refuser certains projets parce que on voulait justement plus les avoir dans nos salles de cours parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui n'était pas vertueux ni pour l'apprenant à long terme ni pour le monde tout court. Par exemple, on avait une formation qui était centrée sur le dropshipping avant et on a complètement arrêté ça parce que on pensait à la base que c'était une bonne façon de permettre à des personnes qui avaient un capital assez limité de se lancer dans le e-commerce. Et en fait, en réalité, on se rendait compte que bon, ça revenait juste à déverser tous les jours plus de plastique dans les océans et faire acheter à des personnes des produits qui étaient franchement pas nécessaires. Donc, donc on l'a supprimé. Mais je dirais que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on constatait déjà avant et ça n'a fait que se renforcer. Mais on n'a pas de catégorie dans impact. On essaye plutôt d'avoir toutes nos catégories qui travaillent vers cet objectif-là.
Ok. Et justement, comment vous concevez les formations? Comment vous choisissez les thématiques qui sont abordées? Tu parlais du marketing digital, j'imagine que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais pour le reste, est-ce que tu sondes ta base, ta communauté? Enfin, comment vous fonctionnez pour à la fois concevoir les cours et surtout choisir quel va être le prochain, quoi?
Au début, on est vraiment parti de cette première base de professeurs particuliers qu'on accompagnait. Donc, on est parti de leur premier besoin qui était centré sur la commercialisation, trouver des clients. Vraiment, ça, c'est ce qui ressort d'ailleurs, même si à l'époque, on ne lisait pas autant de market research qu'aujourd'hui, mais c'est ce qui ressort dans les enquêtes en général lorsqu'on s'interroge sur ce qui manque dans les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat en France. On est très bon en France sur la partie recherche de financement, plutôt bon sur la partie business plan et sur les premières phases vraiment financières, mais on est catastrophique sur l'accompagnement à la commercialisation. On a en général des très jolis business plans, des très jolis dispositifs de financement. Et honnêtement, même pour les petits entrepreneurs, petits, je ne dis pas ça avec un jugement de valeur, je dis plutôt sur des projets avec une ampleur limitée au début, donc des personnes qui vont plutôt aller chercher du financement bancaire ou des prêts d'honneur. Il y a un vrai écosystème en France qui existe, on a de la chance. Alors, il y a des problèmes de lisibilité des dispositifs, des problèmes de connaissances pour des entrepreneurs qui viennent pas forcément d'un background commercial en termes de formation, mais il y a des dispositifs. En revanche, sur la partie accompagnement à la commercialisation, sur se vendre, fixer ses prix, qu'on soit en B2B ou en B2C, il y a une vraie catastrophe et c'est encore pire sur la partie vraiment marketing numérique. C'est pas du tout enseigné de la bonne façon, c'est pas concret, c'est pas facile. Je ne jette pas la pierre non plus. C'est pas facile à enseigner puisque ça change tout le temps. Et nous, ça a été vraiment un des enjeux vu que ce que l'on vend, c'est principalement des accompagnements à la commercialisation justement et avec un focus sur les enjeux numériques, réseaux sociaux, WordPress, création de sites, etc. Comment est-ce que l'on pouvait faire justement pour avoir toujours du contenu à jour? Donc c'est pour ça qu'on a fini par internaliser notre studio et avoir un studio qui tourne en permanence des mises à jour parce que on peut pas fonctionner dans ce type de formation avec le schéma un peu classique où une fois par an on met à jour les vidéos. Ça ne fonctionne juste pas, ou pire, une fois tous les 5 ans comme ça peut être le cas ailleurs. Donc on a démarré vraiment par ce premier bloc de commercialisation, donc marketing digital, Instagram, Facebook. On est en train de rajouter d'autres réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, qui arrivent en début d'année. Et ensuite, on a continué à progresser au gré justement de ce que nous disait notre communauté. On travaille, on a deux deux principaux canaux pour prioriser les demandes, des études quantiques qu'on fait sur la base. On a la chance d'avoir aujourd'hui 200 000 personnes qui reçoivent notre newsletter, donc ça donne un bon terrain de jeu. Et on fait aussi des études plus quali avec, on a une équipe de user research qui va conduire assez régulièrement des entretiens utilisateurs pour pouvoir prioriser les thématiques et prioriser surtout le syllabus une fois qu'on a choisi la thématique, parce que c'est une chose de faire une formation sur la vente, c'est autre chose d'en faire une qui est vraiment efficace pour les problématiques d'entrepreneurs qui vont pas avoir une offre forcément déjà constituée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur la structuration du catalogue. Enfin, c'est pas du tout la même chose d'enseigner pour notre public, des entrepreneurs principalement individuels ou des TPE, que d'enseigner évidemment le marketing digital comme c'est fait à l'ESCP où c'est quelque chose qui est très stratégique. On est presque, c'est enseigné vraiment comme une matière quasi littéraire. Et c'est pas exactement les mêmes problématiques. Alors, une fois qu'on se retrouve dans le Facebook Manager et qu'il faut qu'on sache sur quel bouton appuyer. Donc, les deux compétences sont utiles, mais dans le cas de nos entrepreneurs, il y a besoin d'avoir des choses qui soient vraiment concrètes. Et ça, je pense, c'est d'ailleurs une chance, petit aparté. En fait, le fait de ne pas avoir été très bien inséré à l'époque dans les dispositifs de financement, ça a fait que, mécaniquement, on a dû faire nos 5 premiers millions de chiffre d'affaires avec des cartes bancaires, donc des personnes qui payaient de leur poche. Et c'est pas exactement pareil, je pense, en termes d'exigence de clientèle que certains organismes de formation qui vivaient avec des personnes qui mobilisaient leurs droits et qui, du coup, pouvaient un petit peu moins voir l'impact direct sur leur compte en banque. Et surtout, c'est d'autant plus exigeant lorsqu'on travaille avec des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, c'est une population qui voit assez vite si la formation sert à quelque chose ou non, puisque mécaniquement, eux, ils partent avec 0 € de chiffre d'affaires, et ce qui les intéresse, c'est de voir si ce volume de chiffre d'affaires augmente. Donc, ils ont vraiment la possibilité de pouvoir monitorer leur progrès et une vraie exigence quant à l'obtention effective de progrès, puisque tout simplement, c'est ça qui va conditionner la pérennité du projet. Donc je pense que ça a été vraiment une chance, même si à l'époque on le voyait plutôt comme une contrainte, parce que ça nous a forcé à être très très exigeants sur la qualité du contenu. Ça nous a forcé à avoir vraiment des programmes qui soient le plus impactant possible, parce que tout simplement sinon les personnes demandaient à se faire rembourser, quoi, parce que c'était leur argent à eux ou à elles, et c'était leur résultat et la pérennité de leur projet. Donc c'est pas quelque chose avec lequel ils étaient prêts à transiger, contrairement à peut-être des formations peut-être un peu plus sympathiques, lifestyle, sur les langues, où personne disait « bon, j'ai pas trop progressé en japonais, mais c'est pas non plus une question de vie ou de mort pour mon prochain voyage ».
Et du coup, justement, ça, tu rappelles que tu as une typologie de clients qui est très particulière, des entrepreneurs. Mmh. Comment tu mesures l'impact des formations, dans le sens où tu t'assures que ceux qui rentrent dans une formation, ils aillent vraiment au bout de la formation? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous travaillez dessus?
Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a l'engagement et l'impact. Il y a même trois choses. L'engagement, l'impact et la satisfaction. Et c'est complexe, les métriques opérationnelles dans ce type de business. Il faut vraiment regarder les trois. La satisfaction, on la monitore depuis le début. On fait du NPS, de la CSAT, comme tout le monde, je pense. On sonde tout au long de l'expérience nos utilisateurs pour comprendre s'ils sont satisfaits, et sur chacune des composantes de l'expérience, donc le mentor, la communauté, la plateforme technique en tant que telle, les vidéos, les webinaires collectifs, etc. Donc ça, c'est la première brique. Donc ça permet de repérer des personnes qui sont des grands détracteurs, ou des détracteurs tout court, ou des personnes qui semblent ne pas être très satisfaites de ce que l'on fait, et ça nous permet de les appeler et de corriger l'expérience. Donc ça, c'est le premier niveau, outre le fait évidemment de vérifier que le NPS est dans une tendance positive. C'est quelque chose qu'on pilote au mois le mois et pour chaque cohorte. Ensuite, la deuxième brique, c'est l'engagement. Donc est-ce que les personnes qui sont sur la plateforme, outre le fait d'être satisfaites, est-ce qu'elles font effectivement ce qu'on pense qu'elles doivent faire? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont bien le bon nombre de rendez-vous avec leur mentor? Est-ce qu'elles remplissent bien leurs livrables? Est-ce qu'elles vont jusqu'à l'oral de certification? Est-ce que elles obtiennent la certification? Est-ce que elles consomment le contenu, etc.? Donc ça, on a tout un système d'alerting avec une partie des alertes qui vont être plutôt des envois de mails, essayer de faire revenir déjà sans intervention humaine l'apprenant sur la plateforme. Et ensuite, on va avoir si les alertes s'intensifient, si quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous, si quelqu'un, ça fait plusieurs jours qu'il a absolument rien fait sur sa plateforme alors que sa certification approche, c'est quelqu'un qu'on va appeler. Donc on a une équipe qui est une équipe de ça s'appelle Experience Ops Manager chez nous, qui est responsable d'un pool de mentors qui et des apprenants qui sont associés à ce mentor-là et qui vont du coup monitorer donc à la fois la qualité du de l'expérience qui est offerte par les mentors. Donc quand je dis monitorer, c'est pas forcément surveiller, mais c'est voilà, voir si un mentor a besoin d'aide avec un certain apprenant, voir si il y a des thématiques qui ressortent dans les compétences qui sont acquises ou non acquises par les apprenants qui ont été suivis par un certain mentor, et voir si on peut proposer une formation pour l'aider, voilà, ce genre de choses, et repérer des apprenants qui seraient vraiment très très dans un comportement très déviant par rapport à ce qu'on attend, donc qui serait très très désengagé ou qui aurait un comportement atypique, les appeler et trouver une solution. Parfois c'est changer de mentor, parfois c'est changer carrément de formation parce que c'est quelqu'un qui s'est mal orienté, ou parfois c'est tout simplement mettre la formation en pause parce que la personne s'est cassée la jambe et en fait elle ne peut plus suivre sa formation. Donc même s'il n'y a pas vraiment de raison de plus suivre une formation en ligne quand on s'est cassé la jambe, mais bref, il y a des aléas de la vie comme ça. Et après, le troisième élément, c'est l'impact. Donc comment est-ce qu'on s'assure que nos formations servent à quelque chose une fois qu'elles ont satisfait l'apprenant, et une fois que l'apprenant a une expérience à peu près conforme, ou 100% conforme d'ailleurs, à ce que l'on a vendu. Donc l'impact, c'est, nous on le monite de plusieurs façons. Il y a la partie impact pédagogique, donc on mesure l'acquisition des compétences à la fin via une certification. Donc ça, c'est une certification qu'on détient 4 titres en propre, donc on fait passer un oral à nos apprenants basé sur des livrables, et donc on va évaluer l'acquisition effective des compétences. Donc est-ce que la personne sait bien faire ce qu'on a dit qu'elle saurait faire à l'issue du programme. Et après, il y a l'impact plus sociétal, où là on va traquer 4 métriques. Donc on va faire des études d'insertion à 6, 12, 24 mois.
Génial.
Une métrique, oui, c'est génial, mais c'est pas si facile, mais je reviendrai là-dessus après. On a 4 métriques, donc une métrique qui est sur la part des femmes, enfin le nombre en valeur absolue de femmes qu'on a accompagnées, puisqu'on a deux fois plus de femmes que la moyenne nationale des créateurs d'entreprises, et c'est quelque chose sur lequel on souhaite continuer à travailler. On va traquer également la part des personnes qui sont issues de quartiers prioritaires de la ville ou de zones de revitalisation rurale. C'est quelque chose qu'on priorise également dans notre impact. L'idée, c'est vraiment voilà, d'apporter cet accompagnement entrepreneurial à des endroits où il n'est pas encore assez. La troisième, ça va être le taux de retour à l'emploi à 12 mois. Donc, et par taux de retour à l'emploi, ça peut être à la fois être encore actif dans sa structure et dégager des revenus, donc être par exemple plus rattaché à Pôle emploi, ou avoir retrouvé un job salarié. Nous, c'est quelque chose qui ne nous gêne pas. Si la personne a acquis des compétences et ça ne nuit pas, au contraire, ça aide à son employabilité, on est complètement à l'aise avec ça. C'est complètement OK pour nous de faire une formation chez nous et de, au final, se rendre compte que j'ai appris des choses, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout pour moi et c'est pas grave, je vais faire autre chose. Il y a plein de gens qui en profitent pour se reconvertir d'ailleurs parfois, mais vers un job salarié. Ça, c'est complètement OK. D'ailleurs, ce serait même complètement illusoire ou irresponsable de dire l'inverse. Nous, on a un taux de passage à l'action qui est de 60%. 60% des personnes qui passent dans nos salles de cours lancent effectivement un projet, mais on ne vise pas du tout 100% sur cette métrique-là. Ce serait complètement irresponsable. Il y a plein de projets qui doivent s'arrêter avant d'avoir commencé. Pas parce que le projet est mauvais d'ailleurs, mais juste parce que c'est pas en fait finalement ce que cherche la personne. Ça convient pas en termes de style de vie, l'entrepreneuriat. Et c'est mieux que la personne n'aille pas bien en tête dans quelque chose qui ne lui conviendra pas. Et la dernière chose que l'on traque, c'est quelque chose qui est une métrique un peu maison. On appelle ça le Live Mentor Index. C'est la part des personnes qui déclarent que Live Mentor a eu un impact positif sur leur trajectoire de vie, parce qu'on essaye d'avoir une approche qui est au-delà de la formation en soi. Les personnes viennent chez nous, font 3 mois de formation mentorée sur la thématique de leur choix. parfois reprennent une autre formation, souvent même, mais on veut pas que l'expérience elle s'arrête à ça. Il y a une communauté d'entrepreneurs dans laquelle les personnes restent, il y a des événements qui ont lieu chaque mois dans toute la France dans lesquels les personnes continuent à être conviées, on a des livres, on a un magazine, et on a vraiment cette idée de d'avoir une approche qui est au-delà de la compétence pure, qui est vraiment sur cette notion d'accompagnement un petit peu plus holistique pour atteindre l'étape dans sa vie qui nous correspond, enfin l'étape d'après. Et donc ça va au-delà de juste je sais faire du marketing digital. Souvent les personnes déclarent en fait à avoir atteint en fait un stade émotionnel qui est différent, le fait d'avoir gagné en confiance en soi, le fait d'avoir mieux compris ce que l'on souhaitait faire, le fait d'avoir repris goût au fait de travailler, parce qu'on peut avoir des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat après une expérience un petit peu difficile en salariat, voire très difficile, burn-out. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat aussi par réaction, justement. Et le fait de sortir de cette formation, d'avoir rencontré 4 personnes qui ont un projet similaire, d'avoir repris goût au fait de créer des choses, c'est quelque chose qui est incroyable et qu'on mesure pas juste en sachant que la personne, elle sait faire une publication sur Instagram. Donc, on essaie vraiment d'aller là-dedans, même si c'est compliqué de mesurer la confiance en soi. On n'est pas encore au bout de nos recherches là-dessus. Mais donc ça, c'est vraiment la première base, et on essaye en ce moment justement d'aller un peu au-delà, parce qu'évidemment ce système est intéressant, mais il reste imparfait parce qu'il est très auto-centré. On auto-évalue nous-mêmes notre impact, donc. Il y a beaucoup de pléonasme dans ce que je dis, mais on évalue notre propre impact, ce qui est biaisé forcément. Donc là, on est en train de regarder pour lancer justement avec un prestataire qu'on vient de choisir une étude d'impact externe pour pouvoir justement confirmer que notre approche est bonne et qu'on n'est pas en train de se voiler la face en oubliant une partie de notre base ou que sais-je. Donc on souhaite vraiment monter d'un cran dans la sophistication de notre démarche et avoir à la fois ces métriques internes, à la fois sur le pilotage et sur la partie impact interne, et une étude externe pour valider ça et réajuster éventuellement s'il y a des choses à changer.
Hyper intéressant et extrêmement précieux pour l'écosystème, parce qu'il y a plein d'entreprises qui se posent la question de la mesure d'impact. Mmh. C'est vrai que d'avoir des exemples de méthodologies utilisées, notamment sur, tu parlais du bien-être mental des personnes qui sont passées par la formation, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses pour tout le monde, donc hâte de voir ce que ça va donner. Tu parlais de ta communauté, Anaïs, donc tu parlais de la newsletter qui part à 200 000 personnes, si je dis pas de bêtises. C'est une très forte communauté. Comment est-ce que vous l'avez constituée? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a eu un gros boom à un moment donné? Et surtout, à quel point elle est mixte? Parce que tu parlais beaucoup d'inégalités liées au territoire. À quel point aujourd'hui vous êtes vraiment présent sur différentes zones géographiques? Si tu as des chiffres aussi sur cet aspect.
Oui, alors dans les chiffres choc, on a les femmes, vraiment, je le redis, 2/3 de femmes dans notre écosystème, c'est quelque chose qui est assez incroyable, parce que en plus c'était même pas fait exprès à la base, donc ça a été vraiment une très très bonne surprise. On a aujourd'hui une moyenne d'âge qui est très haute par rapport à ce que les gens pensent en général. On a une moyenne d'âge entre 45 et 50 ans, donc on a plutôt des personnes qui sont dans la deuxième partie de leur carrière, qui sont souvent des primo-entrepreneurs et qui lancent leur premier projet après une belle carrière en général. Donc il y avait vraiment cette volonté justement de former des personnes qui normalement ne reviennent pas à l'école, quoi. Enfin, ou en tout cas à l'époque, avant nous, avant le CPF, ne revenaient pas forcément à l'école. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et le troisième chiffre qui nous plaît pas mal, c'est le fait d'avoir 80%, une grosse, grosse, grosse majorité des personnes qui sont en dehors des grandes villes. Donc 80% des personnes qui sont en dehors des grandes métropoles en France. Et ça, c'est vraiment, s'il y avait qu'un chiffre que je devais garder, c'est celui-là. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important. C'est de façon générale le fait d'essayer de s'inscrire dans les territoires, comme on dit maintenant, c'est quelque chose qui nous drive énormément. On a monté des bureaux en province, c'est d'ailleurs un terme que j'aime pas trop, mais on a monté des bureaux en dehors de Paris,
en région,
qui sont très disruptives à l'époque. C'est pour ça que je suis à Marseille, mais on a monté un bureau en région PACA, on a un bureau en région Bretagne, on est en train de regarder pour en ouvrir un en région bordelaise. Alors, on reste pour le moment à proximité des grandes métropoles pour des raisons de recrutement et d'accessibilité par rapport à Paris, mais on a créé de l'emploi dans toute la région PACA grâce à ces hubs là, grâce à ces communautés de salariés. On a créé de l'emploi à Vannes, on a des salariés qui sont un petit peu partout en France, et ça c'est une vraie fierté. Je pense que la tech commence à avoir un impact un peu plus positif sur le territoire grâce au Covid en vérité, je pense, parce que il y a eu quand même cette prise de conscience que c'était possible d'avoir des emplois qui se répartissent un petit peu plus partout dans le territoire. Et je pense que le télétravail commence à avoir un petit peu d'incidence sur certains territoires, alors pas que positivement, parce que ça crée aussi de la tension sur certaines zones foncières, mais je pense que ça reste quand même positif d'avoir ces pyramides de salaires parisiennes qui commencent à se déverser pour remettre un petit peu de pouvoir d'achat dans certaines métropoles un petit peu plus petites ou dans certaines zones rurales. C'est quelque chose que je pense plutôt positif. Mais voilà, nous, c'est quelque chose qu'on essaye en tout cas de pousser avec la boîte, avec des problématiques particulières, de faire fonctionner une entreprise qui du coup n'a pas qu'un siège mais des bureaux qui sont un petit peu répartis sur tout le territoire. Mais c'est quelque chose qui me semble responsable et utile, donc on s'acharne à le faire tous les jours, parce que je suis convaincue que la tech, si on veut continuer à légitimer notre intérêt, va devoir se poser ces questions sociétales et n'être pas qu'une société, mais essayer de faire société un petit peu plus.
Complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour conclure cet épisode, je voulais te demander de manière un peu plus générale quelle était ta vision de toute cette partie des EdTech qui sont dédiées à la formation professionnelle. Qu'est-ce que tu penses du marché? Où est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être aller? C'est une question vraiment large, mais c'est plus pour prendre ton sentiment, comme tu es quand même sur le secteur depuis un petit bout de temps maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses et vers où ça va, à ton avis? Est-ce que c'est mature, pas mature? Et ça clôturera tout ce que tu as pu nous raconter d'hyper intéressant sur Live Mentor.
Alors, je pense qu'on est en train d'entrer dans une troisième phase de la EdTech. En tout cas, je vais parler des tech B2C parce que je connais assez peu le B2B finalement, et je pense plus intéressant d'observer le B2C qui déjà en soi a une tendance. Avant, ça n'existait pas, la EdTech B2C. C'est le fait de vouloir, à part peut-être sur certaines verticales type soutien scolaire ou sur une dimension plus K-12, mais avec des problématiques vraiment compliquées d'accès au marché en France, etc. Globalement, faire un modèle à destination de l'individu particulier en France avec de la technologie, c'était poussif avant 2019-2020. Nous, on nous prenait un petit peu pour des fous quand on disait qu'on était en B2C et qu'on distribuait directement à l'individu final. On nous prenait un peu pour des cinglés. Et en vrai, les personnes n'avaient pas tort, parce que c'était vraiment très, très compliqué. Le marché était difficile à adresser. Donc ça, c'est vraiment une première tendance. Mais il y a eu quand même globalement, je pense, sur le B2C, trois tendances. La première phase, ça a été vraiment la phase dont on parle plus trop maintenant, mais ça, il faut quand même le rappeler, la phase des MOOC. Donc cette croyance un petit peu dans le fait que la technologie, avec des formats très statiques, très asynchrone, allait permettre d'évangéliser le marché, de donner accès d'un coup. C'est vraiment la croyance dans le fait qu'il allait suffire de donner accès à pour éduquer, avec une croyance dans le fait que l'accès, la gratuité allait vraiment permettre de résoudre des problématiques d'éducation. Ça, c'était une première phase. Je pense que ça a eu le mérite de faire exister le format en ligne. Ça a eu le mérite de commencer à créer un mouvement. Nous, je pense qu'on ne serait pas nés si il n'y avait pas eu ce mouvement-là, de se dire « Attends, ouais, en fait, effectivement, on peut commencer par quelque chose en ligne pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un. » Ça a été positif. Après, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde revient de ces modèles-là. L'engagement est catastrophique. L'impact réel sur l'apprenant en termes d'acquisition de compétences est vraiment très, très à la marge. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à disparaître. Donc ensuite, ce qu'on voit ce qu'on a vu sur la deuxième vague, c'est le fait de recommencer à remettre ce qu'on avait perdu de la classe réelle, c'est-à-dire de la relation humaine, de la synchronicité, utiliser plutôt en fait la technologie pour se dire en fait finalement ce qui au préalable coûtait très cher, à savoir du one-to-one, en fait peut via d'autres modalités pédagogiques être donné avec une meilleure qualité, plus de fréquence, plus d'impact avec la technologie. Donc c'est l'insertion des modèles dans lesquels on va avoir du mentorat, dans lesquels on va avoir de la cohorte, dans lesquels on va avoir du peer-to-peer learning, dans lesquels on va en fait utiliser la technologie en complément pour moi de ce qu'il y a dans les MOOC, parce que les MOOC ne sont pas à détruire, c'est plutôt une première base sur laquelle il faut construire, parce que ça reste une bonne façon de transmettre des compétences. Donc ajouter une dimension de mentorat et d'interaction. Donc là, c'est les modèles qu'on voit sur Open Classroom, par exemple, avec le mentorat. C'est des modèles qu'on peut voir sur OnDeck, par exemple, avec des systèmes de cohorte aux États-Unis. Donc la réinsertion de l'humain et de l'interaction dans des modèles virtuels pour faire mieux que le présentiel sur l'interaction, parce que ça permet, avec des coûts plus faibles, de proposer de l'interaction en général avec un coût, par exemple, de un mois de mentorat qui est à peu près comparable à une heure de mentorat classique sur un format en présentiel. Donc la technologie qui permet aux mentors de gagner du temps, de capitaliser sur des échanges asynchrones avec du chat, enfin des choses comme ça qui permettent de très très bien fonctionner. Mais en général, cette deuxième vague, je trouve, a pour moi l'inconvénient d'être souvent très très adossé à des modèles très très généralistes. Il y a eu un petit peu une deuxième vague prime. Une fois qu'on avait trouvé ces modèles avec un petit peu plus d'interaction, on s'est dit très bien, il y a un marché B2C qui existe, et maintenant la seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de stacker des matières, et on va prendre une verticale, en rajouter plein. Et ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé dans le e-commerce. Alors certains ont réussi dans le e-commerce et c'est très bien, mais ça reste pas une généralité. Une fois, c'est un petit peu comme si au moment où on avait compris que les personnes pouvaient acheter des choses sur Internet, on s'est dit très bien, je vais ajouter plein de thématiques, chaussures, fringues, nourriture, etc. Moi, je pense que c'est une voie qui certainement pas fonctionné pour quelques acteurs probablement, mais c'est loin d'être la façon dont le marché va se structurer, pour la simple et bonne raison que c'est un monde dans lequel c'est plus ou moins winner takes all, quelqu'un va finir par gagner, parce que c'est un monde dans lequel on se bat avec des CAC qui vont augmenter de plus en plus, des canaux de distribution qui sont les mêmes pour tout le monde, et une bataille de marketing pur, d'acquisition, et des choses qui sont pas forcément très intéressante, où on va finir par arriver sur des batailles de prix comme ce qu'on a pu avoir en e-commerce. Moi, je pense qu'une troisième voie est possible, et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir, ce que nous demandent les consommateurs ou les apprenants, c'est le fait d'avoir, exactement comme ce qui s'est passé en e-commerce, une troisième approche qui capitalise sur la première et la deuxième, mais sur une approche beaucoup plus verticalisée, dans laquelle on va avoir non plus un format de formation qui est décliné pour un milliard de thématiques, mais plutôt sur une thématique précise, un écosystème de formation qui va, selon moi, au-delà d'ailleurs de la formation en tant que telle, un écosystème qui va plutôt sur la thématique de la transformation, je pense, et qui va permettre à quelqu'un qui a une problématique verticalisée de pouvoir se développer indépendamment du stade auquel il se trouve. Nous, typiquement, c'est ce dans quoi on croit. On travaille sur la verticale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on propose un média, un magazine papier, on propose un livre, on propose des formations qui permettent, une fois que on s'est dit que l'on souhaitait entreprendre, de développer les compétences dont on a besoin. On est en train de lancer des thématiques un petit peu plus pour des entrepreneurs un peu plus avancés, avec des modèles qui sont plus blended que ce qu'on faisait avant, avec des séminaires, des formats en ligne mélangés, des choses un petit peu plus chères, mais qui permettent vraiment de travailler lorsque l'on a dépassé le stade du million d'euros. Et nous, on se dit vraiment que pourquoi pas un jour aller au-delà de la formation en tant que telle et d'aller vraiment sur l'industrie de la transformation, puisqu'on voit qu'on a des entrepreneurs qui n'ont pas juste des besoins d'apprendre à faire de la pub sur Facebook, qui ont besoin d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à adresser certaines peurs qui les bloquent. Et typiquement, ça veut dire insérer des formats plus liés au bien-être, justement, insérer des formats liés qui frôlent avec le coaching. Parfois, il y a cette tendance en France à vouloir toujours séparer le coaching, le conseil et la formation, alors que c'est quand même souvent assez proche en réalité. Donc, c'est des modèles qui vont être de plus en plus hybrides et qui vont, à l'intérieur d'une même verticale, proposer différentes thématiques de produits qui vont venir servir les besoins. Et c'est ce qu'on peut voir, je pense, d'ailleurs, dans certains modèles, sur les modèles un petit peu plus classiques de formation, où on voit qu'il y a en général, sur les gros acteurs, une reverticalisation. Dans l'anglais, typiquement, que ce soit EF qui propose différents types de format pour apprendre l'anglais, Wall Street English idem. Je pense que dans la nouvelle vague de EdTech, il va y avoir un petit peu ce modèle de reverticalisation, puisque j'ai vraiment du mal à voir comment des modèles très très généralistes de supermarché comme on a pu voir l'école française notamment, mais il y en a plein d'autres, il va y avoir probablement un winner takes all sur cette approche généraliste, mais c'est pas ça l'avenir du marché. Ça, c'est un avenir dans lequel le seul qui s'enrichit, c'est Google, quoi. Donc il y a un besoin du consommateur de reconnaître une véritable expertise et d'être accompagné surtout tout au long de sa démarche de formation, qui commence bien avant le moment où la personne achète une formation, qui commence au moment où la personne se dit peut-être que je voudrais faire quelque chose de différent dans ma vie. Et je pense pas que ce soit une formation la bonne façon d'adresser ça. C'est probablement plutôt un magazine, un événement, et accompagner cette personne après aussi la formation, puisque c'est un parcours qui est très très long.
Et c'est au final le parcours de toute une vie, et tu nous l'as extrêmement bien expliqué. Et je rebondis en disant qu'il y a aussi un enjeu de transformation globale de société. Et typiquement, le plan France 2030 qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir montre qu'il y a vraiment une compréhension que déjà métier et compétences, c'est pas forcément la même chose, et que la compétence sort du scope professionnel pur. Mais voilà, je pense que c'est un mouvement plus global que uniquement la formation pure. T'as tout à fait raison, et je rejoins cette idée de plutôt tendre vers quelque chose qui s'appelle de la transformation ou de l'accompagnement ou comment, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je te rejoins parfaitement là-dessus. Ouais.
Oui, il y a plein de choses aujourd'hui qui restent encore un peu en dehors du scope de la formation pro, et ça, c'est une réflexion, je pense, qui va devoir être faite au niveau des organes de gouvernance de la formation pro de façon générale. Aujourd'hui, c'est quand même très 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 normé ce qui est de la formation pro ou ce qui n'en est pas. Comme je disais, nous, on a souvent des problématiques sur est-ce que un nouveau produit va être considéré plutôt comme du coaching, du consulting, donc on passe beaucoup de temps à bien faire attention, à être bien dans les cases, etc. Est-ce que au fond le plus important c'est ça, ou de se demander quel est le dispositif qui va avoir le plus d'impact, c'est je pense une question qui va devoir se poser, parce que aujourd'hui on voit quand même qu'on est sur des projets qui impliquent le projet de vie de l'individu, donc on n'est plus juste sur de la transmission de compétences, il faut aussi être capable d'aider la personne à s'orienter, et c'est pas exactement les mêmes compétences pour le formateur qui sont nécessaires. C'est des choses qui touchent quand même beaucoup plus au coaching. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est il y a des choses aujourd'hui qui, pour moi, dans la société de compétences, sont nécessaires, mais qui ne touchent pas forcément au travail, par exemple.
C'est génial. Je suis complètement d'accord.
Par exemple, on se pose beaucoup de questions sur comment éduquer de meilleurs citoyens. On avait au collège l'éducation civique. Il y a plus grand chose qui se passe ensuite, et peut-être que c'est pas comme ça que. Enfin, tout le monde ne partage pas cette vision de la société, mais par exemple, en ce moment, on est tous en train, avec nos boîtes, de se dire comment est-ce qu'on va faire notre bilan carbone pour essayer de minimiser notre impact. En soi, il y a énormément de choses qu'on peut faire au niveau individuel, et le fait est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'avoir des dispositifs de financement ou de comprendre vraiment dans quel écosystème on doit se positionner. Si par exemple on souhaite proposer quelque chose pour aider chacun à devenir plus vert à l'échelle individuelle, ce qui peut déjà avoir un énorme impact. Et je vois beaucoup de choses, par exemple dans les dispositifs France Relance, qui veulent pousser vers une société plus verte. Et je pense que la formation pro pourrait probablement, enfin la formation tout court pourrait probablement utiliser une partie des compétences qui ont été développées pour former des professionnels, pour former des individus sur des enjeux qui sont plutôt des enjeux citoyens. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément évident de comprendre par quel levier on peut passer. Et peut-être qu'il faut justement sortir la formation professionnelle de cette séparation déjà un peu artificielle entre le supérieur et le primaire et le secondaire. Ça c'est une chose, mais peut-être réfléchir sur une formation de l'individu et pas juste sur cette notion professionnelle, et se dire bon, si demain la société a besoin de d'individus compétents, est-ce que ces compétences se cantonnent à la partie professionnelle, ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu plus largement? Je pense que c'est ça les questions qu'il faudrait se poser, parce que nous on a plein d'idées avec Live Mentor notamment là-dessus, et on voit d'ailleurs plein de beaux projets qui accompagnent justement par exemple des personnes dans leur transition personnelle avec des vrais résultats. Mais c'est sûr que ça ne se voit pas dans la fiche de revenus ou dans la fiche d'impôt de la personne. Par contre, au niveau de la société, si tout le monde fait ça, on peut avoir un écosystème de vie qui est beaucoup plus vertueux. Donc, il y a toutes ces questions, je pense, qu'il va falloir aborder. C'est des thématiques larges et j'ai pas des solutions, mais je pense qu'il faut se les poser, parce que on a un système qui est vraiment pensé aujourd'hui pour un système qui crée des salariés. Nous, on arrive à créer des entrepreneurs avec, mais qui est en tout cas très très orienté vers le marché et l'économie. Il faut peut-être se poser la question de est-ce que finalement nos enjeux ne deviennent pas un petit peu plus holistiques que ça?
Complètement d'accord avec toi, et on conclura sur ce mot holistique. Merci beaucoup Anaïs pour cet échange, pour ton éclairage sur Live Mentor, sur le marché, sur ta vision surtout que tu nous partages, et qu'on espère que vous arriverez à réaliser sur le très long terme, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'acteurs qui sortent des carcans, et toi et Alexandre, c'est ce que vous faites au quotidien. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.